Bon, bonsoir. Je dis toujours c'est la première, la seconde, la troisième, etc. Mais c'est vrai, c'est la première conférence de l'année 2010. Donc je vous remercie beaucoup d'être là, malgré tous ces avertissements de verglas qui ne sont que météo, peut-être un peu fictives. Donc vous êtes là et vous êtes tous bien vivants et nous aussi. Donc c'est la première conférence du cycle justement Sciences de l'Homme organisée en partenariat avec les différentes écoles doctorales et je remercie Cécile Tréfort d'être présente ici ce soir. Donc c'est une conférence de Jean-Marc Besse qu'on connaît bien dans la maison puisqu'il est venu déjà nous donner une très belle conférence sur la notion de paysage il y a quelques années. Quelques années, ça ne fait pas très longtemps quand même. Dans le cadre de la programmation que nous avons organisée avec l'action culturelle de l'université sur ce thème. Donc Jean-Marc Besse va nous parler de l'histoire des sciences et la question de l'espace, élément pour une géohistoire des savoirs. Donc titre que vous allez bien sûr nous expliciter parce que c'est peut-être pas évident pour les étudiants. Vous êtes docteur en histoire, directeur de recherche au CNRS, directeur de l'équipe EGO-EMR Géographie Cité, CNRS Paris 1, Paris 7, et vous êtes aussi directeur d'une revue qui s'intitule, entre autres, hein, bien entendu, qui s'intitule Les carnets du paysage. Vous enseignez à l'Université de Paris 1, vous êtes responsable du secteur éditorial de NSP de Versailles, directeur de la rédaction de la revue Les carnets du paysage, membre du comité de rédaction de la revue L'espace géographique, etc. Je suis en train de lire votre CV.
Ah, vous n'êtes
pas obligé de... Bah oui, c'est ça. Voilà. Donc, il se trouve de toute façon sur Internet, hein, je pense, Jean-Marc, votre CV.
Oui.
Voilà. Donc vous avez publié « Du milieu à l'environnement, pratique et représentation du rapport homme-nature depuis la Renaissance ». Environnement, représentation et concept de la nature, voir la Terre, 6 essais sur le paysage et la géographie, acte sud, face au monde, atlas, jardin, géorama, des clés de Brouwer, etc. Donc j'ai un livre en main, un des ouvrages que vous avez édité, sur les grandeurs de la Terre, aspects du savoir géographique à la Renaissance. Je vous invite tous à lire ce bel ouvrage. Je suis très contente de vous entendre, voilà ce que je voulais dire. Et je vous remercie tous d'être là. Et puis vous avez une heure pour votre intervention. Merci beaucoup, monsieur.
Merci beaucoup, Anne. Mais effectivement, je suis très content d'être là. Sans attente supplémentaire, compte tenu de l'heure que l'on m'a impartie et du fait que j'ai plutôt tendance à être long, apparemment, je vais commencer tout de suite. Alors, peut-être effectivement, il faudrait justifier le titre, l'histoire des sciences et la question de l'espace, élément pour une géohistoire des savoirs. Donc, le sous-titre est important, élément pour une géohistoire des savoirs, parce que ça me libère quant au caractère totalement hypothétique et expérimental du propos que je vais tenir. C'est effectivement, comme il est convenu de dire, une réflexion, une recherche qui est en cours et dont je ne suis pas un des seuls acteurs d'ailleurs. Voilà, alors pourquoi aborder ce thème? Pourquoi aborder le thème de la géographie ou aborder la question des savoirs et de l'histoire des sciences par l'intermédiaire de la géographie? Ça peut paraître un peu étonnant. En tout cas, ce n'est pas dans les habitudes des historiens des sciences. Alors, je commencerai, si vous voulez, par une petite remarque introductive ou un ensemble de remarques introductives pour vous indiquer en quoi, finalement, ce choix, cet intérêt, repose, je dirais, au départ sur une observation que j'ai pu faire. Il se trouve effectivement qu'on peut observer, pour qui fréquente un peu la littérature concernant différents secteurs des sciences de la culture, pour faire vite, on s'aperçoit que la référence à la géographie et la référence à l'espace ou à l'approche par l'espace, c'est une référence qui se développe de manière considérable, au moins dans trois domaines. J'en traiterai qu'un seul ce soir. Les trois domaines sont les suivants, bien entendu l'histoire des sciences ou des savoirs, comme je prendrai l'habitude de dire, mais aussi l'histoire et la théorie des arts plastiques et visuels, et également les études littéraires. Dans ces différents domaines, on s'aperçoit que bien finalement la référence à la géographie est de plus en plus présente. Un mot justement sur l'histoire de l'art. On s'aperçoit qu'un certain nombre d'historiens d'art sont depuis une dizaine ou une quinzaine d'années en train de réactiver une discipline, entre guillemets, qui était relativement ancienne, puisqu'elle a été créée au début du XXe siècle, dans les universités allemandes et autrichiennes, la géographie artistique. Ils en modifient d'ailleurs de manière assez considérable les concepts, les méthodes, voire l'inspiration philosophique. Mais il reste que, bon, et je renvoie en même temps, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait donc des écoles doctorales, donc je me permettrai de faire aussi des allusions bibliographiques. Bon. Si on regarde par exemple les travaux théoriques et historiographiques de quelqu'un comme Dario Gamboni ou aux États-Unis quelqu'un comme Thomas D'Acosta Kaufmann, qui sont parmi les principaux théoriciens de ce renouveau méthodologique. Si on regarde également un certain nombre de publications récentes et tout à fait exemplaires, je citerai par exemple le Grand Atlas de l'art, publié aux éditions Encyclopédia Universalis, qui est tout à fait remarquable à cet égard, introduit par un très très beau texte justement de Dario Gamboni. Je pourrais évoquer également un volume dirigé par Roland Recht sur l'art européen, intitulé Le Grand Atelier, Chemin de l'art en Europe, 5e, 18e siècle, publié en 2007. Donc tout un ensemble de, si vous voulez, de publications, de réflexions qui contribuent à réactiver l'idée selon laquelle la création artistique ne s'effectue pas en dehors de toute condition d'espace et de lieu. Au contraire, il faudrait désormais envisager les formes artistiques, les styles, les écoles, comme il est convenu d'appeler, et surtout la diversité de ces formes en relation, par exemple, à la centralité et à la périphérie des lieux de leur production, ou bien en rapport aux circuits concrets, routes et chemins, par où les groupes d'artistes ont circulé. Les inventions plastiques se sont diffusées et aussi se sont transformées. Il faudrait tenir compte également, je ne fais que décliner, si vous voulez, toute une liste de thèmes qui sont abordés dans la plupart des ouvrages que j'ai évoqués, notamment dans l'Atlas de l'art que j'ai évoqué. Il faudrait évoquer également les effets de discontinuité spatiale et temporelle qui sont induits par l'existence des frontières nationales à différentes échelles, frontières territoriales, pardon, à différentes échelles. En bref, les différences et les ruptures stylistiques dans le domaine donc des arts plastiques et visuels pourraient trouver parfois leur explication, en tout cas un mode de compréhension, du côté d'une analyse de l'organisation des espaces de l'art. Dans une perspective analogue à la suite des travaux de Franco Moretti, notamment, qui avait publié en 2000 un atlas du roman européen du 19e siècle, là, la théorie et l'histoire de la littérature donc, ont commencé à prendre en compte les dimensions spéciales de la production littéraire, spatiale, pardon, de la production littéraire, et ceci à trois niveaux, en s'intéressant d'une part aux conditions géographiques concrètes des activités de production des formes littéraires, proprement dites, dans le cadre de ce que Franco Moretti appelle, quant à lui, je le cite, une morphologie historique comparée, en analysant d'autre part les géographies imaginaires qui sont développées à l'intérieur des œuvres elles-mêmes, à la manière dont, par exemple, Moretti lui-même présente, je cite, l'Angleterre de Jane Austen ou le Paris de Balzac, et en élaborant enfin une représentation cartographique de ces espaces réels et imaginaires de la littérature. La cartographie, en effet, j'aurai l'occasion d'y revenir dans un instant, permet de localiser les activités littéraires, mais aussi les personnages réels et imaginaires de la littérature. Elle permet de suivre les déplacements de ces personnages, et plus généralement, elle contribue à installer une forme de perception et de compréhension des activités et des imaginaires littéraires. Je signale en deux mots que l'usage de la cartographie est également présent dans la géographie artistique. L'approche spatiale, enfin, a été développée, donc, comme vous le savez sans doute, depuis quelques années, dans le domaine spécifique de l'histoire des sciences, ou peut-être, pour le dire de manière plus précise, de l'anthropologie historique des savoirs scientifiques. Déjà, en 1989, au tout début des éléments d'histoire des sciences, ouvrage collectif qu'il avait dirigé, Michel Serres, dans une page qui était à tous égards programmatique, avait fait de l'espace un schéma d'analyse et de la cartographie un modèle d'écriture pour l'histoire des sciences. L'approche spatiale permettait, affirmait-il, de sortir de la linéarité du récit historique, que cette ligne soit continue ou discontinue, pour envisager, je le cite, le réseau multiple et complexe des chemins qui constituent l'histoire des sciences, les chevauchements de ces chemins, leurs croisements et leurs bifurcations. Elle permettait, donc l'approche spatiale, de restituer, je cite encore, la multiplicité des temps différents, de disciplines diverses, d'idées de la science, de groupes, d'institutions, de capitaux, d'hommes en accord ou en conflit, de machines et d'objets, de prévisions et de hasards imprévus qui composent le tissu, métaphore utilisée par Michel Serres, de l'histoire des sciences. Et pour figurer ce tissu complexe, Michel Serres renvoyait, en montrant un certain nombre d'exemples, hein, dans les deux pages qui suivaient la page que je suis en train de lire, renvoyait à la cartographie, aux différents types de cartes routières, maritimes, aériennes, et surtout à leur comparaison, disait-il, pour faire apparaître les éléments invariants ou structurants de l'histoire des sciences. Il s'agissait, en quelque sorte, de faire apparaître les pôles, les nœuds, les échangeurs, les points de rupture de cet espace-temps des sciences. Les termes sont encore de Michel Serres. Alors, sans nécessairement adopter le point de vue morphologique ou structural de Michel Serres, des travaux plus récents ont ouvert la perspective d'une géo-histoire des sciences. Je ne les évoque que très brièvement dans le cadre de cette introduction. Alors, par exemple, chez les géographes, et plus exactement chez les historiens de la géographie, et en fait, en vérité, dans le prolongement des études sociales de la science qui ont été développées dans le monde anglo-saxon à partir des années 1980-1990, je vous donnerai au moins deux références qui sont importantes, deux auteurs incontournables d'une certaine manière. D'une part, David Livingstone, dans son livre de 2003 intitulé « Putting Science in its Place », ou encore plus récemment, Charles Withers, dans « Placing the Enlightenment » 2007, alors deux livres au titre tout à fait significatif, et qui cherchent à mettre en œuvre justement ce projet d'une géographie historique des sciences, c'est-à-dire le projet d'une mise en correspondance entre les savoirs scientifiques et les lieux où ils sont produits et consommés. Si par exemple Charles Withers, dès le début de son livre sur les Lumières, indique bien que sa question n'est pas seulement et de manière qui resterait classique, qu'est-ce que les Lumières, ou bien quand le mouvement des Lumières est-il apparu, mais aussi et précisément où sont les Lumières, quels sont ces lieux, les lieux en question, les lieux qui doivent être considérés, donc, sont d'ailleurs de nature et d'échelle extrêmement variables, le laboratoire, le jardin, la bibliothèque, l'université, mais aussi la ville, les cafés de la ville, les marchés de la ville, la région, la nation, etc., sont autant de niveaux d'analyse qui peuvent être distingués dans cette géographie historique. J'y reviendrai tout à l'heure. Et de son côté, David Livingstone avait indiqué en quoi il était tout à fait plausible et même légitime d'utiliser des expressions telles que la science française, la science de Manchester pendant la révolution industrielle, ce sont les expressions qu'il utilise, ou bien l'histoire naturelle de Charleston au milieu du XIXe siècle, en attribuant ainsi au concept de science moderne ou de révolution scientifique une complexité et une diversité géographique auxquelles les historiens des sciences n'ont pas toujours été sensibles. Enfin, pour terminer cette première série de remarques, on doit évoquer du côté de l'histoire et de l'anthropologie culturelle l'entreprise éditoriale qui est toujours en cours, pilotée par Christian Jacob sous le titre général de « Lieux de savoir », hein, dont le premier volume a paru en 2007 sous le titre « Espace et communauté ». Et dès l'introduction générale, Christian Jacob nous dit la chose suivante, le lieu et la circulation constituent l'objet de l'ouvrage. Le lieu et la circulation constituent l'objet de l'ouvrage. Et il s'agit plus généralement d'interroger les modalités de l'inscription spatiale et territoriale des savoirs et d'analyser dans cette perspective la mise en œuvre des pratiques, la construction des positions et la formalisation des appartenances dans les mondes sociaux et institutionnels de la science, je cite ce que dit Christian Jacob, fonder, délocaliser, circuler, explorer, converger, déployer un réseau, aller du centre vers la périphérie, agir depuis le centre vers la périphérie, autant d'actions qui nous semblent constituer une histoire spatiale des savoirs. Alors, je ne vais pas pousser plus avant la présentation liminaire de ces différents domaines, à l'intérieur desquels la notion d'une histoire spatiale ou d'une géo-histoire s'est installée. Je voudrais surtout, dans un premier temps, faire une remarque concernant les convergences possibles entre ces trois domaines que je viens d'évoquer, géographie de l'art, géographie littéraire, géographie des sciences. Et ensuite, je dégagerai deux questions à propos des concepts mis en œuvre dans cette approche spatiale. Il me semble en effet, concernant les points de convergence, donc on peut dégager trois points communs entre ces différents domaines. Je les évoque très rapidement. On note tout d'abord l'usage généralisé de la cartographie, comme j'y ai fait allusion tout à l'heure, qui permet dans ces trois secteurs, l'art, la littérature et la science, de produire une image de la répartition spatiale des activités, et qui permet ainsi, comme je l'ai indiqué, donc d'installer une forme de compréhension de ces différentes activités. Alors je pense que sur ce point, nous ne devons pas nous laisser arrêter par la réticence ou l'ironie des géographes eux-mêmes, qui rappellent fréquemment que la carte n'est pas une explication, mais seulement un outil, et qu'il ne faut pas confondre la technique et l'objet visé par cette technique, ici la cartographie. Cette attitude me paraît négliger un aspect important de l'acte cartographique. Un aspect important qui a été dégagé, si l'on peut dire, par les travaux relatifs à l'histoire de la cartographie et à l'anthropologie de la connaissance depuis quelques années. En effet, en tant qu'inscription graphique, la carte crée, pour ainsi dire, son objet. Elle construit l'objet qu'elle vise et représente. Elle ne se contente pas de décrire un objet déjà là, mais elle possède une puissance instituante par rapport à l'objet, une puissance d'objectivation. Par conséquent, l'utilisation de la cartographie dans l'histoire et la théorie de l'art, de la littérature et de la science, loin d'être un palliatif ou un ornement, permet, me semble-t-il, de révéler, au sens photographique de ce terme, une dimension constitutive, déterminante de ces différentes activités, à savoir, entre autres choses, une localisation, leur localisation, leur dispersion spatiale, leur inscription territoriale, leur circulation ou bien encore l'échelle de leur développement. Deuxième point commun que je relève concernant l'usage des concepts, on peut apercevoir par exemple dans les travaux des spécialistes de ces différents domaines l'utilisation commune et répétitive du couple de concepts ou de la structure conceptuelle centre-périphérie, par exemple. Les activités littéraires, artistiques ou scientifiques se distribueraient selon cette sorte de division hiérarchique de l'espace qui a été, comme vous le savez sans doute, beaucoup travaillé en géographie. Alors, les recherches de Franco Moretti, par exemple, sur la centralité de Paris et de Londres dans le marché littéraire au XIXe siècle, les recherches de Carlo Ginzburg et Enrico Castelnuovo sur la polycentralité des activités artistiques dans l'Italie de la Renaissance, celle d'Antonella Romano et de Stéphane Van Damme sur les capitales de la science, par exemple, plus récemment, ont contribué à donner donc, de cette structure spatiale centre-périphérie une potentialité, une potentialité heuristique qui n'est pas à négliger, et cela au-delà des critiques tout à fait légitimes dont elle semble être l'objet aujourd'hui par ailleurs. Au bout du compte, la présence du modèle centre-périphérie dans des domaines et dans des langages apparemment éloignés les uns des autres nous signale que ce modèle, si je puis dire, et plus généralement l'approche par l'espace, ont pris la valeur générale d'une forme de compréhension et d'une méthode d'investigation au sein des sciences de la culture, et que nous assistons, et je vais dire ça avec beaucoup de prudence et avec beaucoup de réserve, et peut-être, nous assistons bien à l'émergence de quelque chose comme un paradigme nouveau dans ce domaine. Et j'insiste bien donc sur le caractère totalement hypothétique et expérimental de cet énoncé. Ce qui me permet d'évoquer le troisième point commun que je veux souligner. Je note en effet que dans la plupart des travaux que je viens d'évoquer, un des motifs récurrents, principaux de l'analyse, est celui de la diversité, ou plus exactement de la différence des formes, des styles et des pratiques, qu'elles soient artistiques, littéraires ou scientifiques. Le point significatif est que ces différences sont d'une part rapportées à des localisations, des distances, des chemins, des frontières, des centres et des périphéries, bref, à des formes d'organisation de l'espace, et que d'autre part, et pour cette raison même, on considère qu'il n'est pas possible de les annuler. En d'autres termes, le motif qui court à travers ces différents travaux est qu'il s'agit désormais de penser la différenciation comme telle des idées, des formes et des pratiques, qu'il s'agit, pour utiliser ici une formule abstraite, de penser l'unité sans synthèse de ce système de différenciation en quoi consiste une culture, qu'elle soit artistique, littéraire ou scientifique. Et que c'est l'espace, au bout du compte, c'est-à-dire la pensée non pas de l'espace, mais par l'espace, c'est-à-dire l'ensemble des outils graphiques et intellectuels mis en œuvre grâce à cette référence à l'espace, qui permet le mieux d'obtenir ce résultat. Alors je laisserai à d'autres, qui sont commentateurs de Michel Foucault, ou de Jean-François Lyotard, ou de Frédéric Jameson, ou de l'idée de postmodernité, le soin de mettre en relation cette façon de procéder avec des diagnostics à la fois plus généraux et plus anciens sur le passage que nous serions collectivement en train de vivre d'une époque où la référence au temps, à l'histoire et au sens de l'histoire qui l'emportait jusqu'alors a laissé la place à l'espace, à la juxtaposition, à la dispersion et, si vous voulez, au côte à côte. Cette dernière remarque me permet d'aborder des interrogations qui me semblent être impliqué nécessairement par le développement de l'approche spatiale ou géographique, dans l'histoire des sciences en particulier. La première concerne justement les notions de science ou de savoir qui sont mises en œuvre par une approche géographique, et la seconde concerne la notion même d'espace qui est engagée dans ces démarches. De quel espace, entre guillemets, s'agit-il? De quoi est-il composé? Comment est-il structuré? Donc, je me concentrerai maintenant sur, dans les deux questions qui vont suivre, sur la question de l'histoire des sciences ou des savoirs. Alors sur le premier point, la prise en considération des dimensions et des conditions spatiales de l'activité scientifique contredit apparemment, comme vous l'imaginez bien, la représentation classique de la science. Celle-ci en effet, dit-on, mais qui le dit, ce serait justement la question, se caractériserait par son universalité, son impersonnalité, son objectivité, son aspect itératif ou transitif, et de toute façon, par ses efforts pour se détacher des contextes de lieu et de temps qui ont marqué sa naissance. Le discours scientifique, et c'est ce qui constituerait justement sa valeur d'objectivité et sa fiabilité, serait ce discours qui parviendrait à échapper à ces conditions d'effectuation, et ceci grâce à la mise en œuvre de procédures logiques et expérimentales contrôlables publiquement. Alors, je ne vais pas entrer ici, bien entendu, dans la discussion générale de cette conception épistémologique, aussi bien dans sa version platonicienne que dans sa version popérienne. Je me contente de souligner, au passage, qu'une telle conception de la science est en réalité, quoi qu'elle en dise, de part en part traversée par une conception de l'espace. Il y aurait en effet un espace de la science, plus précisément un espace de l'objectivité scientifique, espace qui se caractériserait par son universalité, justement, par son homogénéité, mais surtout espace qui se caractériserait par son aspect paradoxal, dans la mesure où ce serait un espace au-delà de l'espace, si l'on peut dire, un espace au-delà de l'espace réel des actions et des pensées humaines, un espace du nulle part. La question reste ouverte de savoir si cet espace des idéalités de la science ou si l'espace du troisième monde popérien existe véritablement. C'est une question philosophique qui ne nous concerne pas aujourd'hui, heureusement. Ce qu'on peut observer, néanmoins, c'est que la prise en compte des conditions spatiales de l'activité scientifique, il vaut mieux en parler au pluriel, des activités scientifiques, contribue à opérer un double déplacement intellectuel et méthodologique. Une approche géographique de la science s'inscrit en effet dans un mouvement plus général, que vous connaissez sans doute, ouvert par ce qu'on a appelé les études sociales de la science, qui depuis une vingtaine d'années se sont éloignées de l'épistémologie au sens restrictif de ce terme, c'est-à-dire au sens logiciste, si je puis dire, et des études sociales de la science qui ont mis en évidence les dimensions et les conditions sociales, anthropologiques, techniques, politiques, culturelles, des activités et des gestes scientifiques. Une géographie des sciences prolonge, en un sens, ce mouvement ou cette inspiration en prenant en compte, donc, de manière, en ajoutant, si vous voulez, une ligne à l'agenda, en prenant en compte donc les structures spatiales de ces activités. La géographie des sciences donc pose comme principe de ces investigations le lieu d'un geste scientifique, qu'il soit mental ou pratique, donc la morphologie de ce lieu, je dirais la normativité interne de ce lieu également, la distance qui sépare ce lieu des autres lieux, la manière dont ce geste et ce qui en résulte traverse, pour ainsi dire, l'espace et va s'installer en d'autres lieux, bref, que tous ces aspects géographiques, au premier sens, du geste scientifique, en constituent une structure de compréhension. Mais ce déplacement de l'épistémologie vers une lecture de type géohistorique du fait scientifique accompagne de la même manière un second déplacement, ou plutôt un élargissement ou une redéfinition de l'objet même de l'étude, peut-être même donc l'ouverture de nouveaux agendas de recherche. En effet, mettre en relation les activités scientifiques avec les lieux et les espaces où elles se déploient remet en question, je viens d'y faire allusion, le geste de rupture épistémologique ou de démarcation avec la métaphysique, je reprends un vocabulaire consacré, geste qui est considéré parfois comme constitutif de la notion même d'objectivité scientifique et de la définition même de la science, que ce soit dans les épistémologies positivistes, popperiennes ou bafflardiennes, par exemple. Ce qu'il s'agirait alors de penser, c'est une sorte de continuité entre les idées scientifiques et les lieux d'où elles émergent et dont elles portent l'empreinte, d'une part. Continuité également de ces idées scientifiques avec les espaces qu'elles traversent et où elles se positionnent les unes par rapport aux autres, d'autre part. Autrement dit, ce qu'il s'agirait de penser, c'est l'espace de déploiement, c'est-à-dire de dispersion et de discussion des savoirs. On est là dans une perspective qui n'est plus à proprement parler épistémologique, elle est plutôt archéologique au sens précis que Michel Foucault donnait à ce terme dans l'archéologie du savoir. L'objectif, en effet, est moins de reconstituer la logique interne de la science que d'observer le fonctionnement de dispositifs de positivité, l'expression de Michel Foucault. Ces dispositifs, Michel Foucault, mais Gérard Simon à la suite, les a appelés pour sa part des savoirs, précisément. Ces savoirs se présentent, ces savoirs ou ces dispositifs se présentent comme des ensembles constitués d'objets, de types de formulations, de concepts, de choix théoriques, de savoir-faire, qui sont eux-mêmes, je cite ici Michel Foucault, investis dans des institutions, dans des techniques, dans des conduites individuelles et collectives, dans des opérations politiques, dans des activités scientifiques, dans des fictions littéraires, dans des spéculations théoriques. Autrement dit, et je vais faire bref, j'espère que vous me pardonnerez, parler de lieu et d'espace, c'est réintroduire la dimension des savoirs au sein de l'histoire des sciences, c'est peut-être même glisser d'une histoire des sciences, au sens restreint du terme, vers une histoire des savoirs, et se poser la question de la juxtaposition et des régimes de coexistence entre des savoirs qui sont localisés et qui circulent selon des modalités qui constituent l'objet même, justement, de l'investigation. Alors se pose alors la deuxième question. qui est celle de la nature de cet espace de localisation et de circulation. Qu'est-ce que l'espace des savoirs, l'espace ou les espaces propres à la production et à la circulation des savoirs? Quelle forme une approche spatiale en histoire des savoirs peut-elle prendre? Alors, je vais me contenter sur ce point de trois indications rapides. La première remarque que je ferai concerne l'organisation spatiale même des savoirs et surtout l'échelle de l'espace où les savoirs sont activés. Deuxième point concernera la circulation spatiale des savoirs et l'impact de ces circulations sur les contenus de savoir. Et enfin, le troisième remarque concernera les pratiques spatiales engagées par les acteurs dans la production des savoirs. Et je me contenterai, parce que je sais que je serai déjà en retard, sur ce dernier point d'analyser un exemple. Alors, le premier point, la première remarque, donc, concernera ce que j'appellerais, si vous voulez, la localisation, la morphologie et l'échelle des savoirs. Quelles sont, sur ce point, les leçons de la géographie? Comme vous savez peut-être, la géographie contemporaine a distingué un certain nombre de concepts qu'elle a mis en œuvre dans l'analyse des phénomènes spatiaux de la vie sociale en général. Elle a posé, par exemple, des questions relatives à la localisation des activités humaines et aux raisons d'être de ces localisations, j'en ai parlé longuement jusqu'à présent. Au-delà, elle a posé des questions relatives à la distance qui sépare les entités géographiques et des questions relatives aux relations spatiales d'interaction que ces entités entretiennent néanmoins entre elles dans cette distance même. Le concept de réseau, j'ai fait allusion au concept d'interaction spatiale, qui est bien connu par les géographes. Le concept de réseau, a permis de désigner de manière générale les lignes, les voies, les circuits conducteurs qui desservent une entité géographique et par l'intermédiaire desquels cette entité se connecte à d'autres entités et au-delà à des systèmes de circulation d'un rang supérieur. La géographie s'est efforcée par ailleurs d'identifier les configurations spatiales, les morphologies au sein desquelles les activités sociales se sont développées. Elle a cherché à caractériser la structure interne de ces configurations en mobilisant les concepts de discontinuité spatiale, de centre et de périphérie, j'y ai fait allusion, qui lui permettent d'envisager les phénomènes de différenciation et en particulier les phénomènes de polarité. Les concepts d'organisation, de hiérarchie, de système ont permis en outre d'orienter la recherche vers l'étude des formes et des processus de structuration des espaces. Je fais une sorte d'inventaire d'un manuel de géographie contemporain, à la limite. Un concept comme celui de diffusion spatiale, même s'il a fait l'objet de nombreuses discussions, a permis de structurer l'étude des processus qui mettent en jeu les déplacements de matière, de produits, de personnes, d'informations, d'idées, dans un milieu ou un territoire quelconque. Et enfin, grâce au concept de niveau de spatialisation et d'échelle spatiale, il est devenu possible de penser la coexistence d'espaces qui sont de tailles différentes, c'est-à-dire d'envisager l'existence simultanée de phénomènes spatiaux qui se développent selon des ordres différents et de se poser la question de l'articulation entre ces phénomènes qui sont d'échelles différentes. Alors, il serait bien entendu difficile de décrire avec précision les usages heuristiques qui pourraient être faits de cette batterie de concepts dans le domaine de l'histoire des savoirs. Je me contenterai d'un exemple en renvoyant aux travaux de Stephen Harris à propos de la Compagnie de Jésus au XVIe siècle et surtout à propos de ce qu'on pourrait appeler l'espace d'acquisition et de transmission des connaissances, notamment géographiques, que les jésuites, que la compagnie, en tant qu'institution, a mis en œuvre à la surface du globe, et ceci donc dès ses premières années d'existence. La recherche de Stephen Harris, qui a été beaucoup discutée dans le monde des historiens des savoirs, et pas simplement dans le monde très particulier des jésuitologues, la recherche donc, de Stephen Harris a mis l'accent, à la suite des travaux de John Law, sur la question de la maîtrise symbolique et pratique de la longue distance. Il s'est intéressé à la manière dont un ordre à vocation spirituelle et missionnaire, les jésuites, mais aussi des entreprises commerciales comme la Compagnie des Indes orientales, ou des institutions d'origine politique comme le Conseil des Indes, ont mis en place de manière systématique des dispositifs techniques et des réseaux de longue distance grâce auxquels les informations scientifiques ont pu être recueillies, transportées, traitées, synthétisées, puis remises en circulation dans la culture sous une forme standardisée à partir de ce que Bruno Latour appelle pour sa part des centres de calcul que constituent justement ces institutions, plus exactement les bibliothèques et les salles des cartes de ces institutions, par exemple. Alors, les analyses d'Harris, de Stephen Harris, mettent en évidence un aspect décisif des pratiques de savoir. C'est l'aspect de l'échelle des espaces où ces pratiques se déploient. On pourrait tenter de définir l'activité scientifique par l'intermédiaire de ce que j'appellerais, pour ma part, des espaces de travail, et plus précisément par l'échelle de ces espaces de travail. En rappelant tout de suite un préalable, le choix, enfin qui est une sorte de banalité pour les géographes, le choix d'une échelle d'analyse spatiale détermine le choix du type de problème que l'on veut poser. Et le choix donc d'une échelle implique également le choix du type d'objet que l'on veut analyser. Et également le choix du type de source, d'archive que l'on va solliciter. Harris a une remarque intéressante à propos de l'histoire des sciences. En comparant ce qu'il appelle les métriques respectives d'opérations telles que, d'une part, la construction d'un instrument d'observation ou la rédaction d'un traité de mathématiques, et d'autre part, la cartographie de l'Amérique du Sud ou l'élaboration d'une taxinomie du vivant, on peut tirer la conclusion que ces différentes disciplines, que des disciplines différentes telles que, mettons, la géographie, mais aussi l'histoire naturelle, l'hydrologie ou la botanique médicale, se déploient à l'intérieur d'espaces qui sont de grande échelle, enfin, d'espaces de grande taille. Je prends le mot échelle dans un sens très banalisé, pas dans le sens cartographique. Et ceci, tout simplement parce que ce sont des disciplines ou des savoirs qui mettent en œuvre un très grand nombre de personnes, un très grand nombre d'institutions, qui se déploient dans des réseaux qui sont de taille relativement importante et qui doivent contrôler également de grandes distances. Alors que, justement, les disciplines scientifiques auxquelles on accorde traditionnellement, dans l'historiographie de la révolution scientifique, le premier rôle, le premier plan, comme la physique ou les mathématiques, par exemple, pourraient être considérées, de ce point de vue, comme des sciences de petite échelle. Ça pourrait se discuter, notamment, puisqu'il évoque la physique, enfin Harris évoque la physique, les mathématiques, mais aussi l'astronomie, ça pourrait discuter au moins pour ce qui concerne l'astronomie. Mais il reste que l'approche spatiale conduit, du point de vue historiographique, si vous voulez, à une conséquence qui n'est pas négligeable, car elle permet de redessiner, de reconfigurer la représentation traditionnelle que l'on se fait de la révolution scientifique moderne. Elle permet précisément de réévaluer la notion de science importante et peut-être on pourrait réfléchir un peu plus profondément à la catégorie, mais vous le faites sans doute, à la catégorie même de révolution scientifique lorsqu'on observe que les sciences de référence sur lesquelles s'appuie cette expression, à laquelle fait référence cette expression dans l'historiographie traditionnelle, appartiennent toutes aux sciences dites de petite échelle par Harris. Comme si, au fond, on laissait en dehors de cette expression révolution scientifique tout un pan très important de l'histoire des savoirs modernes. Alors, dans l'exemple de la science jésuite, mais la question s'opposerait dans les mêmes termes pour toutes les entreprises et les institutions scientifiques d'envergure équivalente, c'est-à-dire internationale à l'époque moderne. La question qui est posée est celle de la définition, de la maîtrise et de l'entretien d'un espace de travail qui se développe à l'échelle du monde, à l'échelle du globe, c'est-à-dire à l'échelle des longues distances. Question donc qui se décline de la manière suivante: par quels moyens cet espace est-il établi? Quels sont les canaux ou les réseaux qui le structurent? Comment se déterminent, c'est-à-dire selon quelles règles, les relations entre le ou les centres et les périphéries de cet espace? quelles sont les polarités de cet espace, quelles sont ses marges, et celles-ci sont-elles nettement définies. On aperçoit tout de suite l'importance de ces questions pour déterminer, par exemple, ou pour réévaluer, par exemple, dans l'histoire des sciences, notamment pour ce qui concerne les jésuites, mais de manière plus générale, le statut d'un lieu particulier qui a souvent été négligé dans l'histoire des sciences, qui est Rome, hein, lieu négligé au profit d'autres capitales de la science. Rome qui incarne de manière exemplaire la superposition et la concentration des échelles. D'un certain point de vue, si on se place du point de vue justement d'un intérêt, comment dire, point de vue de, la, de l'espace de travail des jésuites, Rome est un centre de l'espace scientifique. Cette notion d'un espace de travail à l'intérieur duquel les scientifiques structurent leurs activités peut être déclinée également à d'autres échelles. Jusqu'à présent, donc, j'ai évoqué à la suite d'Harris l'échelle globale, dans la perspective d'organisation hein, qui se donne une vocation universelle. Mais on pourrait très bien garder Rome et l'époque de la première modernité comme exemple et porter l'attention à une autre échelle et s'interroger, donc le contraste apparaîtra assez vite, sur la place de Rome à l'intérieur de l'espace européen de la production savante, aux relations que cette ville entretient avec d'autres centres en Italie, comme Venise, Gênes ou Florence, au-delà de l'Italie, comme Séville, Anvers, Cologne ou Paris. On peut envisager la production et la circulation des idées des objets scientifiques dans la perspective plus générale de l'échange marchand et savant qui s'est des échanges marchands et savants qui se sont structurés en Europe à partir de la Renaissance. On pourrait ainsi dégager d'une part des réseaux européens, Pays-Bas, Italie, Italie, péninsule ibérique, le monde des Habsbourg, l'ère hanséatique. On pourrait d'autre part dégager des discontinuités spatiales à l'intérieur de l'Europe en évoquant le rôle des guerres ou les aires confessionnelles. Vous savez que dans le domaine de l'histoire de la géographie, une question importante est posée de manière permanente, mais à vrai dire, ça concerne également d'autres disciplines scientifiques. Y a-t-il une science protestante, une géographie protestante ou une géographie catholique? Donc toute une série de questions concernant la discontinuité spatiale qui joue un rôle non négligeable dans l'organisation différenciée du savoir scientifique. Prenons une autre échelle, l'échelle locale. Il est possible de s'arrêter aux localisations intra-urbaines de la production savante, où, dans la ville, élabore-t-on les savoirs, où les diffuse-t-on, qui, quel groupe, quelle sociabilité, quel marché, est-ce que ce marché est seulement local, ou joue-t-il à d'autres échelles? Alors, si on prend l'exemple de la cartographie et de Rome toujours, ben on sait par exemple qu'au XVIe siècle, il y a un endroit très particulier qui est une sorte de centre à la fois local, national et européen du savoir cartographique, c'est la Via del Pellegrino. Ceux qui connaissent Rome sauront que c'est à côté de la Piazza Navone, et qui concentre en quelques dizaines de mètres la quasi-totalité des boutiques de graveurs, de marchands de cartes, et c'est là que se réunissent, dit-on, hein, la plupart des érudits et antiquaires pour discuter justement des nouveautés de ce savoir, si je puis dire. Il serait possible d'étudier à cette échelle locale la répartition et la circulation des objets scientifiques au sein de la ville et dans ses abords immédiats. C'est une thématique qui est bien connue maintenant hein, dans l'histoire des savoirs ou dans la géographie des savoirs. On va s'intéresser par exemple à la place des musées, on va s'intéresser à la place des laboratoires. Il y a de très nombreux travaux là-dessus. Ce qu'on pourrait appeler une histoire urbaine des sciences. Question générale qui se poserait alors serait celle de l'articulation entre ces différentes échelles spatiales que je viens de distinguer, l'échelle locale de la ville, si vous voulez, et de ses environs, l'échelle intermédiaire de la nation ou de l'Europe, l'échelle du globe ou de la map monde, si vous voulez. Au fond, on pourrait se poser la question dont les institutions, voire des individus, traversent ou pas et comment ces échelles différentes. Certains individus ou certains groupes restent à certaines échelles locales, mettons, tandis que d'autres ont une sorte de capacité à capitaliser les différentes échelles. Alors, je voudrais maintenant attirer l'attention sur un autre aspect tout à fait fondamental de la spatialité des savoirs, celui de leur dynamique spatiale, celui des flux d'informations et des trajets qui sont effectués par les informations scientifiques. C'est d'ailleurs sur ce point, celui donc de ce qu'on pourrait appeler la mobilité des savoirs, que la distinction entre lieu et espace apparaît la plus convaincante. Je reprendrai ici l'analyse qui est faite par Michel de Certeau. Le lieu, dit-il en substance, est plutôt du côté de la coexistence, de la ce sont les termes qu'il emploie, de la configuration instantanée de position, de la stabilité et de l'inertie. À l'inverse, il y a espace dès que des mouvements se déploient, dès que des mobilités, c'est-à-dire des temporalités, des orientations, des intentions, l'animent. L'espace, conclut Michel de Certeau, est un lieu pratiqué. Mais surtout, ces pratiques, ces opérations qui transforment le lieu en espace, se caractérisent par le fait qu'elles permettent d'échapper à ce que Michel de Certeau appelle la loi du propre. La loi du propre qui définit le lieu, justement, l'identité, si vous voulez. L'espace signifie non seulement la mobilité, mais aussi la transgression et la contamination, c'est-à-dire l'animation et la transformation du lieu par le dehors auquel il est confronté, ainsi que l'introduction d'une zone d'étrangeté au cœur même du lieu propre. Alors, il s'agirait alors, pour ce qui nous concerne, de s'interroger sur les relations matérielles, pour ainsi dire horizontales, à la surface du globe, sur les parcours concrets effectués par les données scientifiques, depuis les lieux où elles sont recueillies et produites, jusqu'aux lieux où elles sont traitées, puis diffusées et appropriées dans la culture. Bref, comment concrètement l'information scientifique circule-t-elle ? Comment est-elle transportée depuis son lieu d'origine jusqu'à son lieu de représentation et quelle est la nature de ce lieu de représentation? Vers quel lieu l'information scientifique est-elle orientée ou destinée de manière privilégiée? Mais surtout, comment, dans ce ou ces transports, ces déplacements, les données de la science se comportent-elles, si l'on peut dire? Que deviennent-elles? Par quel milieu passent-elles? Quelles transformations subissent-elles au cours de ces passages? Dans quels conflits, éventuellement, sont-elles impliquées? En un mot, quel est leur devenir spatial? Autrement dit, l'information scientifique ne prend véritablement sa force objective que lorsqu'elle est mobilisée. C'est-à-dire à la fois, je reprends une remarque qui avait été faite par Bruno Latour, à la fois rendue mobile, transportable et transposable hors de son lieu d'origine, est rendu utilisable pour la production de discours scientifiques nouveaux. Les données deviennent des faits lorsqu'elles sont connectées, justement, à des systèmes de transport et des institutions de savoir, c'est-à-dire lorsqu'elles sont mises en mouvement à l'intérieur des réseaux de la science. La dynamique de l'activité scientifique consiste bien en ce cas et quasi littéralement en une mobilisation des mondes. Et l'on conçoit à cet égard toute l'importance stratégique qui s'attache d'une part à l'entretien des voies de communication et à la définition des règles de transport de l'information, et d'autre part à la détermination d'un ou plusieurs centres vers lesquels ces informations, c'est-à-dire ces mondes, vont converger. Il semble que l'étude du mode de fonctionnement des grandes institutions scientifiques et, je dirais, politiques, pourrait constituer une illustration de cette hypothèse de recherche. Mais outre ces institutions, outre les institutions, on peut également attirer l'attention dans la même inspiration vers des objets ou des espaces qui ont pour vertu de récapituler le monde, si je puis dire, et de le transporter, les livres, les gravures, les atlas, les encyclopédies, les musées constituent autant de théâtres au sein desquels le monde de l'information scientifique est conduit et concentré. Il faudrait cependant y ajouter une remarque qui est sans doute décisive. On pourrait la formuler ainsi. Il n'y a pas de transport sans frottement, de déplacement d'information sans perte. Bref, la communication n'est pas synonyme de transparence de l'information, depuis la source vers le lieu de destination. L'information se perd, au sens littéral du terme, elle s'égare, elle s'oublie, se trahit ou tout simplement disparaît. Symétriquement et en même temps, il est possible d'indiquer en quoi l'information durant son transport est appropriée et réappropriée de multiples manières et en quoi elle est affectée et transformée par les milieux qu'elle traverse. L'information scientifique reçoit ou perd une signification à chaque moment ou étape du trajet qu'elle effectue. Ainsi, l'information est constamment délocalisée et relocalisée en fonction du niveau de signification spatiale qui lui est accordé dans l'économie générale du savoir à un moment donné, mais aussi en fonction du type et de la complexité des supports et des lieux matériels à l'intérieur desquels cette information est accueillie et représentée. Allons plus loin, le savoir scientifique n'existerait à vrai dire que dans cette série de figurations et de traductions, série par laquelle il traverse à la fois l'espace, le temps et la culture. Plus exactement encore, le savoir scientifique n'existerait que dans les multiples opérations de délocalisation et relocalisation mentale et matérielle, graphique le plus souvent, auxquelles il est soumis et dont il est le prétexte et le support. Il s'agirait alors pour l'historien des savoirs, comme je l'ai indiqué, d'étudier le transport de l'information depuis son lieu d'origine jusqu'à son lieu de représentation, que ce lieu de représentation soit le laboratoire, le livre, la carte, le musée, le jardin botanique. Mais surtout, il faudrait s'arrêter aux diverses opérations de reformulation et de traduction que connaît cette information pendant le transport. Je me dépêche parce que le temps passe. Ces questions nous signale donc que le concept, ces différentes questions, différentes remarques nous signalent que le concept de Bruno Latour, le concept de mobilité spatiale, n'est pas en lui-même suffisant pour rendre compte de la situation épistémologique et historiographique que j'envisage ici, car, comme je l'ai indiqué de manière répétitive, ce qui se transporte n'est pas un savoir immuable, en réalité, le savoir bouge, il se transforme, il se reformule, il est traduit selon les contextes qu'il traverse et les situations où il est réemployé. Et je poserai comme hypothèse que la culture scientifique d'une époque serait une sorte de système herméneutique de traduction, de reformulation et de version successive ou simultanée d'un savoir, version qui lui donne en fait sa véritable consistance, c'est-à-dire son épaisseur au sein de la société. Un objectif de travail pourrait être de procéder à une cartographie de ce système. Je me contente de renvoyer, pour ce qui concerne l'histoire de la géographie et plus précisément l'histoire de l'exploration, aux travaux tout à fait remarquables de Felix Driver sur ce qu'il appelle les cultures de l'exploration, où il décline comment, justement, il décline à propos du même thème de l'exploration, dans l'Angleterre du XIXe siècle, comment ce thème est réapproprié justement dans ce qu'il appelle les différentes cultures, que ce soit celle de l'explorateur, celui de la société savante ou celui du journalisme, pour faire vite. Alors, dernière remarque, qui ne sera pas la plus longue, concernant les pratiques d'espace et les styles de savoir. Dernière remarque concernerait justement les pratiques spatiales des acteurs en tant que tels et qui me semble être un aspect, je dirais, souvent négligé par les historiens des sciences ou des savoirs. Je voudrais m'appuyer, non, si tout se passe bien, ça devrait bien se passer. Je vais m'appuyer donc sur la lecture d'un texte, assez fameux, qui est un texte dans lequel Cuvier, donc le naturaliste, rend compte d'un ouvrage d'Alexandre de Humboldt, publié peu de temps auparavant, donc un ouvrage célèbre, Les tableaux de la nature. Et surtout, un texte dans lequel Cuvier, je dirais, se positionne par rapport à la pratique du voyage qui est développée par Alexandre de Humboldt en Amérique. Alors, je ne vais pas le lire le texte, vous l'avez sous les yeux, et le lirez en même temps que je le commente. L'analyse de Cuvier, comme vous le pouvez voir très vite, prend appui sur la distinction, une distinction tout à fait classique, entre deux figures de savants naturalistes, le sédentaire d'une part, le voyageur d'autre part. Il y a autant de différences entre les idées et le style du naturaliste voyageur et celle du naturaliste sédentaire qu'entre les talents et les qualités nécessaires à l'un et à l'autre. Le premier, donc le voyageur, parcourant avec plus ou moins de rapidité une multitude de contrées diverses et frappé successivement par un grand nombre d'objets et d'êtres intéressants, il les observe dans les lieux mêmes où les plaça la nature, dans leur vrai rapport avec ce qui les entoure et dans toute la plénitude de leur vie et de leur action, mais ne pouvant donner à chacun d'eux que quelques instants, qu'il n'est pas toujours maître de prolonger à son gré, privé de la faculté de comparer chaque être avec ceux qui lui ressemblent et d'en fixer rigoureusement les caractères, privé même de livres, de la possibilité de consulter ceux qui ont vu les mêmes choses avant lui, il ne conserverait de ses observations que des traces isolées et fugitives. Si, au courage et à l'activité nécessaires pour le genre de vie auquel il se consacre, il le joignait la mémoire la plus inaltérable et ce génie élevé qui saisit avec promptitude les rapports les plus éloignés des choses. Alors, face à ce génie tout physique, qui fait le grand voyageur, le courage, le sens de l'observation rapide, la mémoire, la figure du sédentaire paraît dans un premier temps moins flamboyante. Je continue la lecture. Le naturaliste sédentaire ne connaît, il est vrai, les êtres des pays lointains que par des récits plus ou moins sujets à l'erreur et par des échantillons plus ou moins altérés. Les grandes scènes de la nature ne peuvent être senties par lui avec la même vivacité que par ceux qui en ont été les témoins. Il lui échappe mille circonstances délicates de mœurs et d'habitudes qui l'auraient frappé s'il eût été sur les lieux, mais ces inconvénients sont compensés par bien des avantages. C'est là que le retournement rhétorique va apparaître, car à l'audace physique du voyageur qui se déplace rapidement dans les pays lointains, Cuvier va confronter alors le courage intellectuel du savant immobile. Ce dernier, indique-t-il, s'il ne voit pas la nature en action, il en fait passer tous les produits en revue devant lui, il les compare entre eux aussi souvent qu'il est nécessaire pour arriver à des résultats certains, il choisit les questions qu'il traite, il en circonscrit à son gré l'étendue, il met à les examiner tout le temps qu'il lui plaît, il rassemble de toutes parts les faits qui s'y rapportent, le voyageur ne parcourt qu'une route étroite. Ce n'est vraiment que dans le cabinet que l'on peut parcourir l'univers en tous sens, mais il faut pour cela une autre sorte de courage, celui qui tient à un dévouement sans bornes pour la vérité et qui ne permet d'abandonner un sujet que quand au moyen de la réflexion, de l'observation, de l'érudition, on l'a éclairé de tous les rayons que peut fournir l'état momentané de nos connaissances. Une opposition donc classique entre le savant de cabinet et le savant de terrain. On connaît cette opposition depuis fort longtemps. Déjà Strabon, enfin pour la géographie, déjà Strabon, puis Nicolas de Cuse, on avait fait le principe structurant même du savoir géographique. Les voyageurs, disait-il, l'un et l'autre, doivent être considérés comme les yeux et les oreilles des véritables savants, qui sont les cartographes et qui, dans le silence de leur cabinet, peuvent élaborer une synthèse intellectuelle et graphique qu'on appelle justement la carte à partir des informations transmises par les voyageurs, avec une division du travail, donc est en même temps une division, je dirais, psychophysique. Finalement, les voyageurs sont au niveau de la sensibilité ou des sens, le véritable savant de cabinet est au niveau de l'intellect. Vous voyez, cette argumentation de Cuvier, donc, est construite sur une série d'oppositions qui mettent en relief, c'est ça qui m'intéresse, le rôle des pratiques de l'espace, du sédentaire et du voyageur, du savant de cabinet et du savant de terrain. Des pratiques de l'espace qui constituent comme un bilan de leurs compétences savantes respectives. Avec, au bout du compte, comme vous l'avez noté, un renversement au profit du sédentaire. La distance par rapport au terrain est un avantage pour la science, pour la construction de l'objectivité, selon Cuvier. Alors certes, le savant sédentaire n'a que des relations lointaines, indirectes, dépendantes avec le terrain, puisqu'il dépend des récits plus ou moins vrais des témoins, il ne dispose que d'échantillons, il manque les détails, il ne ressent pas avec vivacité la réalité des faits observés. À l'inverse, justement, le voyageur est en contact avec le réel, et grâce à ses déplacements incessants, et surtout grâce à sa vitesse, il rencontre et observe une grande quantité de faits et d'objets. Il voit les choses dans leur lieu même, dans les lieux mêmes, pardon, où ils se manifestent, dans leur vrai rapport avec leur environnement. Il est dans une sorte de vérité de la présence au monde. Pourtant, écrit Cuvier, le voyageur ne peut atteindre qu'une partie du réel, celle qui est ouverte et en même temps fermée par ses déplacements. Il est dépendant des contraintes matérielles et des temps du voyage. Il n'a accès qu'à des traces isolées et fugitives, dit Cuvier. Ses déplacements incessants ne lui donnent pas la possibilité de comparer de façon stable les objets observés. Il est pressé par les circonstances. Enfin et surtout, il n'a pas de livre. Tout son savoir repose donc sur une mémoire personnelle et une capacité personnelle, là encore, à saisir, c'est-à-dire psychologique, à saisir des rapports entre les choses. C'est là que le sédentaire remporte la mise, au bout du compte, selon Cuvier. Celui-ci, le savant de cabinet, est maître de son temps et de ses questions. Dans le silence de son cabinet, il examine à loisir, il critique, il compare, il lit et il écrit. Et finalement, c'est le monde entier qui est ouvert devant lui. Au bout du compte, le vrai cosmopolite, c'est le savant sédentaire qui reste dans son cabinet, immobile face au monde. Un renversement assez prodigieux qui fait du vrai héros celui qui ne quitte pas son fauteuil. L'argumentation de Cuvier donc est fondée, comme vous pourriez le noter, comme vous pouvez noter, sur une conception du travail savant qui sépare en réalité le moment et l'espace du voyage du moment de l'écriture à proprement parler. Et symétriquement, elle conduit à trois ensembles de conséquences. Premièrement, cette manière que Cuvier a de présenter l'économie du travail savant permet de faire la promotion d'un certain type d'ouvrages scientifiques qui sont écrits selon une méthodologie qui est celle de la description, de la collection et de la comparaison. Deuxièmement, elle valorise une organisation de l'espace-temps de la fabrication du savoir qui localise cette fabrication dans les institutions savantes et non sur le terrain. Et troisièmement, elle revendique, et là c'est la notation anthropologique si je puis dire qui m'intéresserait, elle revendique le privilège de l'immobilité du corps savant, et par là elle détermine un certain genre de rapport physique à la spatialité, la distance et l'immobilité comme normes dans la construction des savoirs. La position de Humboldt développe quant à elle une espèce de solidarité entre trois éléments. D'une part, un type d'expérience spatiale et de pratique savante, donc le voyage, la rapidité des déplacements qui permet de saisir les ressemblances et les différences dans les mesures et les observations. D'autre part, un type d'objet, l'espace comme phénomène observable, comme forme saisissable par le regard, et non plus comme nom attribué au résultat des opérations de synthèse. Et enfin, un type d'écriture, la narration accompagnée de notes et d'éclaircissements auxquels s'ajoutent les documents graphiques. Avec Humboldt, on est dans un autre type de rationalité apparemment, dans un autre style de pratique scientifique qui serait aperçu précisément en portant attention au contraste entre les pratiques spatiales et aux relations entre ces pratiques spatiales et les pratiques d'écriture. Pourtant, il faudrait noter que Cuvier et Humboldt partagent des valeurs scientifiques identiques qui reposent sur la volonté d'exactitude, sur la mesure, sur la synthèse obtenue par comparaison. On sait par ailleurs que Humboldt lui-même adopte les pratiques prescrites par Cuvier. Et donc la question, si vous voulez, serait de trouver le bon point de vue, le bon cadre d'analyse permettant de repérer ce contraste entre deux pratiques savantes symétriques qui pourtant se rejoignent, sont identiques, si vous voulez, au niveau des normes de discours, aux normes de légitimité. Bon, je ne vais pas développer ce point parce qu'il est déjà trop tard. Je me contente d'indiquer, de signaler toute la potentialité à cet égard d'une approche par les pratiques spatiales. Je conclus. Dominique Pestre avait évoqué, à propos des sciences de la nature, je le cite, il avait évoqué le caractère décisif et l'efficace propre d'un ordonnancement précis des objets et des hommes dans l'espace pour la reproduction et la standardisation de nombreux résultats expérimentaux. Phrase un peu longue. Sa remarque, celle de Dominique Pestre, porte plus loin, selon moi, que sur les sciences expérimentales. Et on peut généraliser son intuition. Je renvoie pour cela aux suggestions de l'historien Bernard Le Petit, pour qui l'espace, disait-il, n'est pas seulement un cadre ou un support des activités humaines, ni seulement en outre un objet de l'enquête historique, il est aussi une voie d'accès à la connaissance des faits du passé, un outil heuristique en tant que tel. L'historien définit l'espace qui lui permet de mettre en œuvre, son analyse et de déterminer ses objets. Et les enjeux principaux, alors, sont d'une part, comme je l'ai indiqué, celui de l'échelle spatiale qu'il choisit, l'historien, pour développer son questionnement, et d'autre part, celui des catégories spatiales, des concepts spatiaux qu'il mobilise. En tout état de cause, comme je l'ai indiqué il y a un instant, la perspective spatialisante que j'évoque s'inscrit dans un déplacement général auquel on assiste aujourd'hui, un déplacement par rapport à ce qu'on pourrait appeler une histoire platonicienne des sciences, pour laquelle la considération des lieux et des espaces n'entrait pas de manière fondamentale dans l'analyse de la production des connaissances scientifiques. Surtout, il faut aller plus loin, me semble-t-il, que l'idée selon laquelle l'espace constitue un simple cadre ou un contexte de l'analyse, il faut considérer l'espace comme une dimension déterminante dans la fabrication du savoir scientifique et comme une clé pour la compréhension des mécanismes de cette fabrication. En particulier, il faudrait s'intéresser plus précisément aux spatialités matérielles et symboliques mises en œuvre dans la production, la diffusion et la réception des idées scientifiques. Pour finir, cela revient à dire qu'il y aurait une morphologie de l'histoire du savoir, de sa production et de sa circulation dans la culture et la société, et il s'agirait alors de définir la nature, les formes spécifiques et les hiérarchies internes de ces espaces de savoir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Et je suis à votre disposition pour les questions.
Merci beaucoup Jean-Marc Pesse, c'était toujours aussi passionnant et très, très très riche. Il y a divers thèmes qui apparaissent dans votre conférence et je pense aussi que cette géohistoire peut donner des idées en effet à nos étudiants et cette discipline comme on peut l'appeler est aussi par la manière dont vous l'avez montré et disposé dans l'espace servir en effet toutes les disciplines. Donc on a envie de demander en effet qu'il y ait aussi plus d'enseignement de l'histoire des savoirs dans les universités. Je pense que ça pourrait être une discipline à part entière. Je ne dis pas qu'il faut zapper l'histoire des sciences, parce que ce n'est pas moi qui dirais ça, ni la philosophie des sciences, mais là vous avez ouvert un champ qui est absolument certainement méconnu pour beaucoup de personnes ici présentes. Donc je vous en remercie et j'espère qu'il y aura des questions dans la salle. Moi j'en ai en tout cas, nous deux. N'hésitez pas. Moi je vais y aller alors. Si j'ai bien compris, la science externaliste dont vous parlez, donc les étudiants ne sont peut-être pas au courant, la science externaliste, pour la caricaturer un peu, c'est un mouvement de penser qui veut qu'en fait on regarde la science de l'extérieur, on regarde la vie des laboratoires, etc., donc avec les travaux qui ont été faits par Dominique Pestre et puis Bruno Latour. Cette science externaliste qu'on regarde de l'extérieur, elle va devenir une géohistoire ? Elle existera encore ou on la voit différemment ? Comment vous la voyez maintenant que vous pensez spatialement, si je puis dire, vous ne la voyez plus du tout de cette façon-là. Moi, je l'ai caricaturée, là.
Oui. comment dire ? Il y a au moins deux choses, si vous voulez, qu'on peut dire par rapport à ça. Effectivement, on peut considérer que l'approche spatiale est une sorte de prolongement revendiqué, explicite, d'une approche externaliste. Des sciences. Et en tant que telle, elle pourrait se situer de manière polémique par rapport, je dirais, aux approches épistémologiques plus classiques. Quand je dis l'approche épistémologique plus classique, ça correspond à finalement une aspiration de type positiviste ou popérienne, pour faire vite. Bon, on pourrait assumer cela, et pourquoi pas. Et au fond, on s'aperçoit que chez un certain nombre d'historiens, hein, qui font de l'histoire des sciences ou des savoirs de cette manière-là, ça pose aucun problème particulier. Il est évident que dès qu'on se met à parler d'histoire des sciences ou des savoirs, je vais employer pour l'instant les termes de manière relativement équivalente, on ne peut pas complètement se satisfaire de cela, de cette approche qui serait purement externaliste, au sens où on pourrait considérer que c'est une approche qui serait réductionniste par rapport à, mettons, la ce qu'on pourrait imaginer être la spécificité du contenu du savoir scientifique. Même de manière résibelle, on pourrait défendre l'idée d'une objectivité, si vous voulez. Hein? Bon. Alors, si on se pose le problème dans ces termes-là, effectivement, on est mal placé. Hein? D'où la deuxième remarque qu'on peut faire par rapport à ça. La question, je crois, l'enjeu est... Et ce que permet en réalité, me semble-t-il, une approche spatiale, c'est de déplacer le type de questionnement pour sortir de l'alternative entre, mettons, épistémologie, histoire des sciences, ou approche internaliste ou approche externaliste, en réalité, dans la mesure où ça donne une représentation relativement différente de ce que c'est que la production et la circulation des savoirs, tout simplement. C'est pour ça que j'évoquais la notion d'archéologie, ou que j'ai fait allusion au regretté Gérard Simon,
hein, qui bon, merci beaucoup d'ailleurs, il est venu chez nous,
et je sais, oui. et donc même lorsqu'il parlait de Kepler, hein, dans son fameux livre Kepler astronome astrologue, avait justement, à la suite de Michel Foucault, avait réapproprié, prolongé l'inspiration dite archéologique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut s'habituer à penser la production des savoirs comme un espace, un espace d'énoncé, voyez, qui ne sont pas nécessairement réductibles ou unifiables, ou en tout cas qui ne sont pas toujours réductibles ou unifiables à la chaîne, à une chaîne logique, constitutive de ce qu'on appelle généralement une théorie. Hein. On a affaire en fait à une dispersion d'énoncés. Hein, et cette dispersion d'énoncés, c'est un espace à proprement parler, un espace dans lequel effectivement on peut essayer de faire jouer méthodologiquement un certain nombre des catégories géographiques auxquelles j'ai fait allusion, mais il y en aurait d'autres en réalité. C'est pas très clair, mais enfin, vous voyez, si vous voulez, ça nous permet de faire l'économie, si je puis dire, d'une distinction qui n'est pas commode. Et qui n'est pas vraiment pertinente en réalité, hein, entre une approche internaliste et une approche externaliste. Hein, voilà.
Ça y est, les mains se lèvent alors. 1, 2, 3, d'accord.
Vas-y. Merci. Alors, je suis assez convaincu par beaucoup des arguments que vous apportez, et je pense que ce que vous venez de dire, c'est tout à fait intéressant, effectivement, de pouvoir aller vers une approche qui serait plus celle de la diffusion des savoirs, parce que c'est vrai que souvent, l'histoire des sciences, c'est un peu concentré. Je suis historien des sciences. Hein. C'est beaucoup concentré sur des individus, des moments très particuliers, ce qui fait qu'on avait beau se localiser dans le temps et dans l'espace. C'est vrai qu'un certain nombre d'approches ont parfois un petit peu négligé... soit la dimension historique, soit la dimension civilisationnelle, soit la dimension géographique. Donc ça, je suis assez persuadé qu'il faut le faire.
On appelle ça une histoire culturelle maintenant.
Oui, bien sûr, mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez riche. Depuis qu'il commence à y avoir des gens qui sont payés pour le faire aussi, parce qu'il faut bien dire que du temps où il n'y avait pas de poste en histoire des sciences, et, bon, forcément, ça limite la faculté de production de savoir dans ce domaine-là. Alors, là où je suis moins convaincu, c'est sur en particulier ce que moi je connais pas Harris, hein, je suis assez ignorant, je dois l'avouer, dans les disciplines géographiques, mais Harris, semble-t-il, regarde non pas la localisation ou la circulation de la production de savoir, mais ce que j'en ai compris, c'est plutôt finalement l'objet, pas l'étude. Parce que parler d'échelle grande ou courte pour le ou réduite pour le par exemple, la botanique par opposition aux mathématiques, historiquement, ça me paraît extrêmement curieux. Si on regarde, par exemple, le XVIIIe siècle, la circulation géographique, elle est essentiellement là, grosso modo, hein, en y allant vraiment à la hache, elle est quand même sensiblement la même. Bien sûr, les parcours sur la Terre des explorateurs qui ont fourni de données pour l'un ou pour l'autre, et franchement, même pour ça, ça demanderait, si on prend la physique, voilà, la mesure de la méridienne, ça fait parcourir quand même, ça fait de l'exploration. La mesure de l'aplatissement de la Terre, ça fait de l'exploration. Hein, il y a eu des études, je pense, des choses extrêmement classiques. Hein, si on regarde Galilée, par exemple, une des choses qu'on peut dire sur Galilée, c'est que s'il a pu observer un certain nombre de reliefs sur la Lune, c'est parce que il avait donné des cours de perspective. Hein, il avait donné des cours de perspective parce qu'il était dans un contexte de civilisation bien précis, ou lié à l'art, hein, en particulier. Et ça, c'est extrêmement localisé. Et voilà, il existe aussi dans les études antérieures cette perspective.
Oui. Alors, je suis heureux que vous puissiez faire cette remarque, et parce que ça permet effectivement d'introduire une nuance. C'est l'aspect. Je vais vous dire pourquoi j'ai fait cette allusion. Elle était, comment dire, tactique. Mais je suis heureux que vous puissiez évoquer ça, parce qu'effectivement, il me semble que c'est un des points faibles de l'argumentation d'Harris. Hein, et l'opposition entre, effectivement, l'échelle de travail dans des disciplines telles que, mettons, la géographie ou la botanique, d'une part, et, mettons, les mathématiques ou la physique, d'autre part. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on s'aperçoit que là, circulation des savoirs, des acteurs, des idées qui sont portées par ces acteurs, elle est en réalité beaucoup plus importante qu'on peut l'imaginer. Donc, de ce point de vue-là, je les mettrais. Pour moi, ce serait le même type de problème. Vous voyez ? Ce serait le même type de problème. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une objection, mais ça permet d'introduire une nuance tout à fait importante quant à la hiérarchie, si vous voulez, que donne Harris. Mais pourquoi j'ai évoqué ça ? Tout simplement parce que ça me permet, ou en tout cas l'outil, l'instrument Harris me permet de le rejoindre quand même sur un point qui est la nécessité dans laquelle, je pense que c'est un point maintenant qui est largement partagé, mais j'insiste là-dessus. La nécessité dans laquelle nous sommes aujourd'hui de revisiter le fameux concept de révolution scientifique, qui me paraît, qui est encore bien souvent employé, vous voulez, et qui, en tout cas, pour certaines disciplines, moi c'est vrai que moi je travaille plutôt du côté de l'histoire, de la géographie, est très mal commode et très inapproprié à comme catégorie historiographique pour rendre compte de quoi, de l'objet dont il s'agit, si vous voulez. Voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, donc, c'est la relativisation de la référence exclusive qui est faite encore bien souvent, hein, à des disciplines certes très très importantes, hein, mais qui ne sont pas les seules, que sont les mathématiques, etc. etc. Et là-dessus, je rejoindrai sans difficulté. Voilà.
Oui, oui, je sais pas, je voulais faire un parallèle un peu grossier, mais enfin bon. Dans la théorie marxiste courante, bon, il y a aussi ce type de détermination, mais qui concerne les milieux sociaux, etc. Quelle différenciation faites-vous entre vos développements et ce que pouvaient faire les théoriciens marxistes ?
Disons que on est effectivement dans une affirmation qui ne relève pas, à la limite, nécessairement d'un marxisme, si vous voulez, hein, qui relèverait plutôt de ce qu'on pourra appeler un déterminisme. Vous voyez ? Étant entendu qu'on peut être déterministe sans être marxiste. Vous voyez ? C'est une question difficile. Hein, une question difficile. Parce qu'elle supposerait, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, toute une analyse sur qui a été menée, mais qui n'a pas vraiment été menée de manière aboutie, me semble-t-il, dans le cadre du marxisme, sur la question de la place respective de l'espace et de la société, c'est-à-dire la place Il y a de l'espace dans une analyse sur les déterminismes sociaux, par exemple, hein, ce genre de choses. Hein, qui a été, bon, je ne rentre pas là-dedans. Je me contente de dire qu'effectivement, la considération de l'espace ou de la spatialité, des spatialités, je préfère en parler au pluriel, dans le domaine que je considère là maintenant, est une revendication, je dirais, explicitement déterministe. Elle ajoute d'une certaine manière une détermination à l'ensemble des autres déterminations que les historiens, qui sont orientés vers la recherche de la compréhension des phénomènes du passé, en l'occurrence ici le phénomène scientifique, que les historiens donc ont coutume de rechercher, si je puis dire. Il se trouve simplement que dans les lignes de l'agenda de recherche, on rajouterait une dimension qui a souvent été négligée et qui semble aussi importante et qui est de nature, me semble-t-il, à redéployer la liste même des questions, au fond. Voilà.
Il y avait une autre question,
j'ai vu. Oui, monsieur, je pense que vous voulez poser une question.
Pardon, j'ai levé la main parce que... Ah, vous êtes là, pardon.
C'est plutôt une question pour mieux comprendre votre propos. Et justement, au rapport du Michel Foucault que vous évoquez, pour le situer, parce que c'est aussi un peu la langue qui me fait difficulté, c'est-à-dire, est-ce que votre propos est un prolongement de l'archéologie des savoirs, ou pas directement bien sûr, mais les notions de la constitution du savoir, mais aussi du pouvoir finalement, et si c'est le cas, c'est où la question du pouvoir dans cette notion d'espace qui vous évoquez?
Partout. Voilà, ouais. Précisément partout. C'est-à-dire que tout énoncé de savoir est précisément également, rentre dans le jeu, enfin, je parlais de dispersion, de concurrence, etc., que là encore, mais les contraintes hein, de l'horaire hein, empêchent hein, de déplier tout le questionnement. Mais les idées, elles ne volent pas comme ça hein, dans les airs. Elles sont portées par des acteurs, comme on aime maintenant le dire. Elles sont portées par des institutions. Et quand elles rentrent en concurrence, c'est précisément des acteurs, des institutions qui rentrent en concurrence, par exemple. Voyez. Donc cette question du pouvoir, elle est essentielle. Voilà.
Ça rejoint un petit peu sur l'espace du pouvoir, enfin le territoire, c'est un mot qui a été que vous n'avez pas prononcé en fait une seule fois. Et voilà, alors que c'est un des concepts fondamentaux de la géographie, donc je sais pas pourquoi.
Alors on déplace un peu. C'est très mal commode, en fait. C'est un des concepts fondamentaux de la géographie, et je ne sais pas pourquoi.
Territoire, il y a terre.
Non, mais je suis très sérieux quand je dis ça. Hein. C'est pas une pirouette. Ça relèverait. Vous voyez, on fait une distinction aujourd'hui tout à fait classique, mais absolument pas fondée épistémologiquement, hein, entre espace et territoire, par exemple. Vous voyez, pour faire vite. De la même manière qu'on voit circuler avec des significations différentes ou identiques les mots espace, lieu, etc. Voyez, moi je suis très mal à l'aise avec ces distinctions de vocabulaire hein, qui sont devenues des distinctions de définition, mais qui sont devenues des distinctions de définition, je dirais, par l'usage, mettons, académique. Voyez, par l'usage académique, alors on a pris l'habitude de dire que la géographie sociale s'occupe du territoire et puis que l'analyse spatiale s'occupe de l'espace, etc. Si vous voulez, quand on regarde de manière un peu attentive, conceptuelle, les choses, on est frappé très vite par le caractère assez artificiel de ce genre de distinction. Vous voyez ? Et c'est pour, donc, moi, j'ai pris l'habitude, à titre de précaution intellectuelle, au fond. Vous voyez ? Mais ce n'est qu'une opinion personnelle, donc elle est par définition totalement discutable et critiquable. Hein, vous voyez ? J'ai pris l'habitude de parler de manière généralisée d'espace. Vous voyez ? Après, je peux décliner à l'intérieur de cette catégorie générale d'espace, je peux décliner un certain nombre de sous-concepts, si vous voulez, qui me semblent être de toute façon de l'ordre hein, de la spatialité. Alors je peux, par exemple, pourquoi pas utiliser le terme de territoire, voyez, en reprenant la définition classique, mais je ne ferai jamais d'opposition, je dirais, de nature, comme on le fait encore trop souvent, hein, entre, par exemple, l'espace et le territoire, comme si on parlait de deux réalités différentes. On parle de la même réalité.
J'imagine que c'est une remarque souvent de vous faire, parce que les géographes...
Oui, mais absolument.
Aussi, tous les géographes absolument. N'ont pas de formation philosophique.
Oui, également.
Vous avez parlé de l'espace des réseaux, mais vous n'avez jamais cité la toile, Internet.
Oui.
Dans les supports, alors, je ne sais pas, c'est une question que je me suis posée. Non, parce que là, vous êtes dans... Est-ce que ça va... Comment envisagez-vous cela? Cette notion d'espace par rapport à l'information scientifique dont vous avez parlé aussi.
Ah, ben ça, c'est une question compliquée. Hein. Oui. C'est une question compliquée. Comment dire la chose? Je vais faire un petit détour. Comment dire? Quand on s'intéresse à la tradition de réflexion sur l'encyclopédie, c'est-à-dire sur la classification des savoirs, on s'aperçoit que depuis très très longtemps, il y a un modèle qui est utilisé, parmi les différents modèles qui sont utilisés, mais il y en a un qui revient de manière récurrente pour penser l'organisation des savoirs, c'est-à-dire à la fois leur différenciation et leur mise en relation, mettons, hiérarchique, etc., c'est le modèle de la carte. C'est le modèle de la cartographie. On trouve ça très classiquement, par exemple, dans l'encyclopédie d'Alembert. Mais ça traverse l'ensemble des réflexions, je dirais, encyclopédiques modernes. Ça se retrouve dans la pensée d'Internet. Vous voyez ? Puisqu'en fait, ce qu'il s'agit de penser, justement, ce qu'il s'agit de mettre en place dans l'organisation de l'espace sémantique, parce que c'est pas autre chose qu'un l'organisation de l'espace sémantique qu'on appelle la toile ou l'internet. Ce qu'il s'agit de penser, c'est précisément la juxtaposition sans synthèse, donc sans possibilité de les identifier, d'éléments d'information différents. On est dans une cartographie, si je puis dire. Voyez. Et j'ai eu l'occasion de lire comme ça, je ne suis pas très expert là-dedans, mais de lire un certain nombre de réflexions de logiciens et d'informaticiens qui essayent de réfléchir justement sur l'architecture logique de cet espace sémantique qu'on appelle l'Internet et la navigation. Et à l'intérieur, ce n'était pas navigation. Le terme est déjà lui-même significatif. On se rend compte très vite que on est dans justement la, mais pour l'instant je ne peux pas en dire beaucoup plus, on est dans une sorte de revendication selon laquelle la spatialité, si je puis dire, serait en tant que telle un mode de raisonnement en tant que tel, voyez, qui ne correspondrait pas à l'enchaînement, enfin à la représentation classique que l'on s'en fait du raisonnement, avec classiquement on se fait la représentation du raisonnement comme une sorte de, enfin sur un mode linéaire si vous voulez. On serait là, qu'est-ce que peut être une pensée spatiale? Comment ça fonctionne? Quel est par exemple le rôle de l'analogie? Quel est le rôle de ces différents instruments rhétoriques qui sont des supports de la mise en œuvre d'un type de pensée originale et qui n'est pas nécessairement un type de pensée poétique, si je puis dire. Voilà. Bon, je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais enfin, je sens, pour ce qui me concerne, qu'il y a là une vraie potentialité logique, si je puis dire. Voilà.
La dernière question.
Si je peux me permettre une remarque sur les aspects web, je trouve que c'est très intéressant que vous présentiez les choses comme ça, parce que finalement, pendant un moment, je dirais jusque... C'était très en faveur jusqu'à la fin des années 90, on présentait le web plutôt comme une abolition de la distance, c'était le village global, c'était le zéro distance partout, la déterritorialisation complète. Or, on voit aujourd'hui de plus en plus que la déterritorialisation d'un certain nombre de choses, la dématérialisation, elle recèle de distance, elle recèle d'espace, et que même si ce n'est pas un espace qui est territorial, excusez-moi si je ne suis pas dans les bons termes,
non, enfin, pas très
qui n'est pas géolocalisé, qui n'est pas incarné dans la Terre, on a des formes de territoire logique, en tout cas des formes d'espace logique.
Ah, tout à fait.
Très clairement.
Ça, oui, je suis absolument convaincu de ça.
C'est fini, malheureusement.
Je vous remercie en tout cas de votre attention.
Merci beaucoup Jean-Marc Besse. Au revoir. On se retrouve la semaine prochaine, les étudiants.
Si j'ai bien compris ce qu'il voulait dire, ça n'a pas beaucoup de personnel. Voyez, ça peut se faire dans des lieux restreints. Vous voyez, c'est cette image que le mathématicien il restera dans son bureau, etc. Ouais. Tandis que les botanistes, ils doivent aller sur le terrain, ils doivent être nombreux, etc.
Parce que si on en prenait ça, par exemple, au point de vue pratique, les mathématiques, ça sert dans l'électricité.
Oui, bien sûr. On n'est pas au niveau des objets, si vous voulez, mais plutôt au niveau des personnes et des institutions qui sont utilisées. Voilà. Je sais pas, moi, tu sais, parce que j'arrivais pas à lire, moi.